cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 28 janvier 1993.
La meilleure façon de fêter saint Thomas, c'est de faire un cours de métaphysique à la première heure du jour. Je crois qu'il nous regarde avec amour et on doit lui demander de nous aider à entrer dans ce que lui-même nous demanderait de faire. Entrer dans ce regard sur ce regard métaphysique sur la personne humaine. Le chemin d'existence, ceci est et je suis. Je crois que dans cette expérience du je suis, il y a une affectivité très radicale. Je ne peux pas ne pas aimer. Spéculatif, on oppose spéculatif et l'amoureux. et source radicale d'amour. Elle ne sépare pas. Elle est autre chose que l'amour. Mais quand elle va jusqu'au bout de son exigence d'intelligence, elle s'achève dans l'amour. Je ne peux pas découvrir mon « je suis » sans qu'il y ait un amour. Je m'aime quand même, bien que je vois toutes les limites de mon « je suis ». Je ne peux pas me découvrir dans mon exister sans m'aimer. Le bien implique en acte l'exister. Saint Thomas dit ça. Il n'y a pas de bien sans exister. Donc, découvrir le « je suis ». Parce que dans le jugement d'existence, ceci est « ah oui, le petit chat, il existe ». Je ne peux pas dire que je l'aime, sauf s'il est miné. Alors je l'aime à ce moment-là. Autrement, je ne peux pas dire que je l'aime. Ce chien qui est mon compagnon de route, il existe, mais je ne peux pas dire que je l'aime, tandis que quand je découvre, je suis, ah, je ne suis pas indifférent à mon exister, c'est impossible, et je ne peux pas découvrir le je suis tant je demeure dans l'indifférence. L'objectivité métaphysique, comme on aime le dire, ce qui est une grosse bêtise. Je suis au-delà de l'objectivité, de la subjectivité, quand je suis en métaphysique. Je suis au-delà. Puisque c'est plus la raison, c'est l'intelligence qui saisit l'être. Mais l'être, il est objectif et il est subjectif, je crois. Alors, cette rencontre des deux qui me permet de me situer dans une perspective qui est au-delà de l'aspect proprement scientifique de l'analyse. Vous voyez, le bien, on l'aime. Et on ne l'analyse plus. C'est pour ça que le bien est saisi dans une attitude extatique. Quand vous êtes en extase, vous n'analysez plus. Bon. Saint Thomas doit vous apprendre ce que c'est que l'extase. Le propre de l'aspect de l'amour qui est extatique est au-delà de toute analyse. Alors, il n'y a pas d'extase de l'intelligence sur la terre. L'extase de l'intelligence sera dans la vision béatifique. Mais il y a, à titre embryonnaire, quelque chose d'extatique dans le « je suis ». Et c'est le point de départ d'une connaissance de sagesse. Ce point de départ de la connaissance de sagesse ne s'épanouira pleinement que dans la découverte de l'être premier. C'est pour ça que la découverte de l'être premier ne peut pas se faire d'un point de vue purement spéculatif. Il y a un amour puissant. Et je crois que c'est dans cette expérience, puisque l'amour ne se découvre que dans une expérience. C'est le propre de l'amour. Si je n'ai pas l'expérience de l'amour, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je ne l'analyse pas. Il faut aimer. Il faut aimer l'être pour comprendre que l'être est en acte et qu'il est le bien. Et qu'il est mon bien. Je ne peux pas découvrir mon bien sans l'amour. Donc il y a un moment où je passe de la connaissance de l'analyse à une connaissance qui n'est plus une analyse. pansement, où il y a quelque chose qui permet à mon intelligence de dépasser le mode proprement de l'analyse pour entrer dans quelque chose qui n'est pas la contemplation parfaite. Quand je dis je suis, je ne peux pas dire que je contemple, mais j'expérimente quelque chose d'irréductible à l'analyse que j'aime. C'est l'amour de mon être qui me conduit à quelque chose qui est au-delà de l'analyse de l'être. J'analyse ceci est. Je n'analyse plus, je suis. Je vois dans cette expérience du je suis toute la richesse du je suis. Et ce n'est plus une analyse. Cela reste une description. Et c'est très important de comprendre cela parce que ça me fait comprendre la tentation permanente de l'existentialisme, la tentation permanente de la phénoménologie qui ne veut plus analyser et qui veut décrire. On comprend très bien cela. Dès que je saisis le je suis, analyser le je suis, c'est le détruire. Analyser ceci est, c'est pénétrer dans le ceci est. C'est aller plus loin. C'est de vouloir aller plus loin. Tandis qu'analyser le je suis, c'est le détruire. Donc, il y a quelque chose en moi, dans cette expérience du je suis, qui m'empêche de retourner en arrière par rapport à l'analyse de l'être. L'analyse de l'être est faite. Et si je retourne en arrière, je suis changé en statut de sel. Et je ramène le je suis à ceci est. Ramener le je suis à ceci est, c'est empêcher d'entrer en sagesse, dans une connaissance nouvelle, qui est la connaissance de la personne. Vous voyez, il y a quelque chose d'original dans je suis, qui n'est pas ceci est. Alors saisissez le quelque chose d'original. Or, c'est l'objet qui spécifie, qui détermine ma connaissance. S'il y a quelque chose d'original dans ce dont je suis, il faut nécessairement que ma connaissance du je suis soit autre, soit un jugement autre que le jugement du ceci est. Et ce jugement du je suis a une modalité affective. Parce que le je suis ne m'est pas indifférent. Ceci est ne m'est pas indifférent au plan de mon intelligence. Mais il m'est indifférent par rapport à mon cœur. Ceci est, c'est peut-être la vache. C'est peut-être moi. Mais c'est moi. Tandis qu'en dit je suis, je ne traite. Puis ce fait ne peut pas être indifférent. C'est qu'il y a l'éveil d'un amour. Un amour par rapport à l'être. C'est ça que j'appelle le cœur métaphysique. C'est le cœur profond. Et ce n'est plus la sentimentalité. Ce n'est plus m'aimer dans mon conditionnement. C'est m'aimer dans mon esprit. C'est là où l'esprit et l'être se rejoignent. Et l'esprit, je l'aime. Je ne suis pas indifférent à l'esprit. Or, l'esprit est source de subjectivité. C'est pour ça que je ne peux pas être indifférent. C'est le sujet qui aime. Et c'est le sujet qui connaît. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, objectivité et subjectivité s'unissent. Ils font que le « je suis » est une expérience de philosophie première, ultime. C'est l'expérience la plus parfaite que j'ai sur la Terre. Vous ne pouvez pas avoir une expérience plus parfaite que celle-là. Puisque Dieu, je ne l'expérimente pas au plan philosophique, au plan naturel. Je ne peux que le contempler. Tandis que le je suis, je l'expérimente. Et je ne peux pas dire au sens absolu que je le contemple. Alors vous voyez, là, il y a là quelque chose de tout à fait sui generis. Qui est très important. Parce que c'est justement cette expérience qui implique une note affective, une modalité affective. Et pour la comprendre, il faut tout simplement comprendre que vous ne pouvez pas être neutre. Il n'y a pas de neutralité quand on dit je suis. Or, on peut faire semblant qu'on est neutre. Je reste au plan métaphysique, je suis. Mais ce n'est pas l'expérience du je suis. C'est une projection du ceci est. Et une projection du ceci est sur le je suis n'est pas l'expérience du je suis. Vous pouvez dire, vous voyez, j'existe comme tous les autres. Donc je ramène le je suis à ceci est. Je retourne en arrière. Tandis qu'au contraire, si je me sers de tout ce qui a été dit. Je sais que l'être en acte s'explicite par rapport à l'esprit. Et l'être en acte dans l'esprit devient le bien, le vrai. Et dans le je suis, il y a le bien et le vrai. En acte. Et je ne peux pas saisir le bien en acte sans qu'il soit mon bien. Et c'est mon bien le plus radical qui soit quand j'ai dit je suis. Et je crois que ça, c'est très important à expliciter. Parce que c'est le moment où l'intelligence, et comme on dit habituellement, mais ce sont une formule qui est un petit peu romantique, c'est le moment où l'intelligence tombe dans le cœur. Vous savez, on dit ça tout le temps, votre intelligence tombe dans le cœur. Quand les gens disent ça, il faut faire attention, parce que souvent ils disent ça de façon romantique. Tandis que là, je peux dire, c'est le moment où l'intelligence assume le cœur. Parce que l'intelligence ne tombe jamais comme intelligence. Elle est toujours debout. Le jour où l'intelligence tombe, c'est le romantisme. Alors quand vous dites que l'intelligence tombe dans le cœur, ça va plus. C'est du romantisme. Tandis que si vous dites que l'intelligence assume la volonté et respecte l'amour, l'intelligence, quand elle est vraiment intelligente, quand elle est ce qu'elle doit être, respecte l'amour. Quand saint Thomas dit, quand il compare intelligence et volonté, quand il compare être et bien, il dit que, à l'égard de toutes les réalités supérieures à nous-mêmes, il faut mieux les aimer que les connaître. C'est extrêmement beau, ça. Et c'est une rectification éternelle. C'est là où on voit bien que saint Thomas, dans son regard métaphysique, pénètre plus loin qu'une simple analyse métaphysique. ça peut le connaître en essayant de voir qu'est-ce que c'est que ce petit vivant. Quel est le cœur du petit chat? Non, pas du tout pour que le cœur du petit chat soit dans mon cœur et qu'il n'y ait plus qu'un seul cœur. Parce qu'alors ce serait lamentable. Et le connaître objectivement, donc l'analyser. Dès que j'analyse, je connais objectivement. Alors par rapport à moi, il y a une connaissance de moi qui est de considérer que mon exister est mon bien radical. C'est la connaissance de l'esprit qui s'éveille en moi et qui comprend que je suis mon premier bien. Vous voyez, quand Aristote dit que on ne peut pas aimer l'autre sans s'aimer, il dit ça comme ça. Alors si on comprend ça psychologiquement, c'est effrayant. Hein. Aimez-vous, voyez, et vous pourrez aimer les autres. Alors on se gonfle, on s'aime. Et puis par là, on dit qu'on aime les autres. Au bout d'un certain temps, c'est de l'égocentrisme. Le plus radical qui soit, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un amour fondamental de mon exister. Mais il n'explicite pas du tout Aristote. Il faut comprendre. Et je crois que c'est à ce moment-là, dans cette expérience du « je suis » que je m'aime, que j'ai l'éveil en moi d'un amour spirituel profond, très radical, premier. Et à ce moment-là, la connaissance de la philosophie première demeure toujours une connaissance de l'être et de mon être. Autrement dit, je ne peux pas connaître mon être sans l'aimer. L'être tout court reste, comme dit Merleau-Ponty, l'être sauvage. Tandis que mon être, ce n'est plus l'être sauvage. Et ce n'est pas l'être civilisé. C'est l'être intime. C'est l'être personnel. C'est l'être que je saisis de l'intérieur. Et alors, je l'apprivoise. Mais je l'apprivoise en maintenant ce qu'il a de sauvage, entre guillemets. C'est-à-dire de ce qu'il a d'inassimilable. Le sauvage, c'est ce qui ne peut pas être assimilé. Alors, vous voyez qu'il est au-delà de toute adaptation. C'est pour ça qu'il faut toujours respecter l'être sauvage qui n'est pas assimilé. Dès qu'il est assimilé, il n'est plus sauvage. Il est civilisé puisque je l'ai assimilé. Tandis que l'être sauvage reste quelque chose qui me transcende. Et quand je l'aime, je l'assimile pas, je l'aime dans sa transcendance. Je l'aime comme quelque chose qui est irréductible à mon appréhension. Et je comprends qu'il doit rester irréductible à mon appréhension. Mon appréhension, c'est toujours ce que je suis capable d'assimiler. C'est l'aspect quantitatif. Or, l'être ne peut pas se ramener à la quantité. Il est radical. Il est premier. Et je dois l'aimer pour découvrir que c'est mon être. Donc, essayez de saisir ce moment si important du dépassement de la distinction subjective-objective. Et ce dépassement se fait par l'amour. au niveau philosophie première, même, je dirais, plus au niveau sagesse. Quand Augustin et saint Thomas reprend cela, nous dit que la sagesse implique toujours une note affective. C'est le propre de la sagesse, une connaissance affective. Mais une connaissance affective qui n'est pas la connaissance de l'ami, qui va beaucoup plus loin, qui reste au niveau de l'être. Et c'est à ce moment-là où la sagesse naît en nous. La sagesse ne naît pas au niveau de ma connaissance de mon ami. C'est pas en connaissant mon ami affectivement que je suis un sage. Il y en aurait trop de sages. Dès que je découvre mon ami, je suis un sage, grâce à toi. Alors ça deviendrait l'idolâtrie. On peut très facilement tomber dans l'idolâtrie, hein, dans la connaissance affective, et considérer l'ami comme un dieu, puisqu'il révèle à moi ma sagesse. Donc il est dieu. Ça c'est faux. Parce que l'ami n'est pas mon dieu. Parce que la connaissance affective de l'ami n'est pas une connaissance de sagesse. Pour que la connaissance affective soit une connaissance de sagesse, il faut connaître le bien dans l'être et l'être dans le bien. Il faut connaître l'être en acte qui est bien pour l'esprit. Mais je ne quitte pas ce niveau métaphysique de l'être. Je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus merveilleux dans cette expérience du « je suis » et de plus bouleversant. Vous voyez, découvrir la naissance de la sagesse, de la connaissance sapientiale, c'est quand même très étonnant. Je dis bien à titre là, embryonnaire. Parce que la connaissance de sagesse ne sera parfaite que lorsque je découvrirai l'existence de l'être premier. Mais embryonnaire, il y a un moment embryonnaire de la sagesse qui est un nouvel appel vers quelque chose de parfait. Ça, c'est justement la recherche de la découverte de l'être premier. Alors, essayons de décrire ce que je suis, non pas de l'analyser, de décrire. Première chose que nous faisons, et nous l'avons fait la dernière fois, c'est de voir la différence entre ceci est et je suis. De voir cette différence d'une façon objective et d'une façon subjective. Façon objective, c'est de découvrir l'immanence de cette expérience du je suis. Je découvre l'être en moi, dans mon intériorité et dans ma plus grande intériorité. Puisque le je suis regarde tout ce que je suis. L'immanence. Ceci est. Je touche. tout ce que j'ai assimilé. Dans le je suis, je saisis quelque chose qui dépasse toute l'intentionnalité. Tout ce que j'assimile, je saisis quelque chose qui est autre que moi et antérieur à moi. Et donc, qui est plus que moi. Que je n'arriverai jamais à assimiler.
vue objectif, c'est très important de saisir cette première grande distinction. Mais bien comprendre qu'il y a quelque chose de commun. Le quelque chose de commun, c'est l'expérience que j'ai du ceci est, l'expérience que j'ai du je suis. Et cette expérience se fait dans un jugement qui touche l'être. Et donc il y a quelque chose de commun, puisque nous sommes en présence des deux expériences de l'être. Alors voyez, si je pousse un tout petit peu et me franc, je verrai tout de suite que cette expérience du « je suis » me permet de comprendre dans l'expérience du « ceci est » certains aspects nouveaux. Il faudra essayer de comprendre comment l'expérience du « je suis » explicite et rend raison de certaines modalités de l'être que j'ai constaté, expérimenté, mais que je n'ai pas expliqué. Entre autres, comment l'être est à la fois substance et relation. Ça, il faudrait revenir, mais je peux tout de suite poser le problème. Je crois que c'est l'expérience du « je suis » comparé à ceci est qui me permet et qui me permettra de comprendre comment l'être est à la fois substance et relation. Parce que au point de départ de mon analyse métaphysique, je le constate, je vois deux modalités de l'être tout à fait différentes. L'intase, comme on dit aujourd'hui, c'est tellement beau comme mot. L'intase, la substance, l'immanence de l'être. Et puis, l'aspect d'éclatement de l'être, la relation. L'être et relation. Alors, il faudrait essayer de comprendre comment l'expérience du ceci est et l'expérience du je suis rend raison de cela. Parce que, vous comprenez, dans les prédicaments, je constate qu'il y a substance, et je constate qu'il y a relation. Je constate que Pierre existe en lui-même, dans son autonomie. Je constate que Pierre peut être en relation avec Jacques, ou avec Jean. Et la relation, c'est le dépassement de l'intase, de la substance. C'est justement l'inverse. C'est très bien de le constater, mais il faut le comprendre. Et je ne comprends qu'à partir de l'être, et dans l'expérience que j'ai de l'être. Alors, je crois, ça, il faudrait y revenir au terme. Mais je peux me poser la question là, et j'ai le droit de me la poser même. Dès que je constate la différence entre l'expérience du « je suis » et l'expérience du « ceci est », c'est deux jugements d'existence. Donc il y a quelque chose de commun et il y a quelque chose de tout à fait différent. Deuxièmement, au niveau subjectif, je vois qu'il y a dans la connaissance du « je suis » quelque chose de tout à fait nouveau, puisque le point de vue objectif et le point de vue subjectif sont intimement liés, sont même identiques dans le « je suis ». Dans le « je suis », il y a ceci est et il y a le « je suis ». Ce qui me fait comprendre comment cette expérience du « je suis » est une expérience d'un type tout à fait particulier. Puisque il me permet de maintenir l'objectivité du ceci est et de maintenir la subjectivité du je suis. il serait intéressant de tout de suite dire, très bien, mais qu'est-ce qui est premier? Puisque dans le je suis est impliqué ceci est. Alors qu'est-ce qui est premier? Ceci est ou je suis? Dans l'identité. Le je suis me donne l'immanence et donc le sens profond de la subjectivité de l'esprit. Et le ceci est me donne l'expérience de la transcendance de l'objet. Les deux sont intimement liés. Et ça, c'est au niveau de l'expérience, donc nous pouvons tous l'avoir. Quand je fais une induction, je comprends que quelquefois, on reste en route. Mais quand on est en présence du je suis, et en présence de ceci est, c'est quand même quelque chose que je touche. Je touche par mon intelligence. C'est ce qui est important, c'est que je suis là au carrefour de la modernité. C'est ça que la philosophie moderne a mis en pleine lumière. C'est la philosophie de l'esprit. La collection de Sartre, philosophie de l'esprit, qui se met en opposition avec la philosophie de l'être. Alors quand même, c'est intéressant de montrer que cette opposition est complètement stupide. Parce que la philosophie de l'esprit ne peut naître qu'à partir de la philosophie de l'être. Et la philosophie de l'être est sans la philosophie de l'esprit. Donc je ne peux pas opposer ça, c'est m'avouer à ne plus comprendre. Couper la subjectivité de l'objectivité, c'est avouer, c'est se condamner à s'enfermer dans les ténèbres subjectives. Donc c'est capital pour nous de comprendre ça. Et une fois qu'on l'a compris, on ne peut plus tolérer cette séparation. Parce qu'on a vu le moment où les deux s'unissent. Tout en se distinguant, tout en se respectant, ceci est, je suis. Alors on peut se poser la question, lequel est premier? Nous l'avions déjà touché la dernière fois. Et on le touche ici de façon plus forte, puisque on le touche dans l'union de la subjectivité et de l'objectivité. C'est quand même très important. Ou le dépassement de la subjectivité et de l'objectivité. Parce que la distinction subjective et objective se fait dans l'analyse de la connaissance. Dès que j'analyse ce qu'est l'appréhension, je distingue l'objet et le sujet connaissant. C'est qu'ensuite, on a fait de cette distinction, on en a fait quelque chose d'absolu, la subjectivité transcendantale de Kant. Et la subjectivité transcendantale de Kant, c'est la subjectivité qui enveloppe, assume l'aspect objectif. Et donc, l'aspect objectif disparaît en présence de la subjectivité transcendantale de Kant. Il a materné l'objet en l'enveloppant maternellement. Il l'a étouffé. C'est ça qu'a fait Kant. Quand je mets la subjectivité avant l'objectivité, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'objet disparaît et devient relatif à la subjectivité. Et donc il disparaît. Il n'est plus principe. C'est materner l'objectivité. Kant est un affectif. Il a materné l'objectivité. Étonnante par la subjectivité transcendantale. C'est curieuse et tout le monde a suivi. Sauf ceux qui se sont rejetés, qui ont été violemment en opposition avec Kant. forme et mesure de toute chose, voyez, ce que déjà les anciens voulaient. Parce que la subjectivité dans son total, ça ne peut être que mon intelligence. Ça ne peut être que l'homme connaissant. Alors, réfléchissons du côté subjectif, du côté de la connaissance elle-même. Le « je suis » présuppose « ceci est ». Et c'est parce qu'il présuppose « ceci est » qu'il ne peut pas materner le « ceci est ». Il doit le respecter. Et donc, si le « ceci est » est premier, l'objectivité demeure toujours première. Et la subjectivité ne peut être qu'une modalité d'objectivité. Et c'est pour ça que la subjectivité ne peut pas être un principe. Ça ne peut être qu'une modalité particulière de l'objectivité. Mais c'est vrai que le « je suis », nous l'avons dit tout à l'heure, est une expérience très unique. Une expérience première de mon conditionnement au niveau de l'être. Là, vous voyez, j'en arrive à dire que la subjectivité est un conditionnement de l'objectivité. Et c'est vrai, la subjectivité conditionne l'objectivité. Et le jour où je mets ce conditionnement antérieur à l'objectivité, je tombe dans la subjectivité transcendantale. Et ceci est très vieux, c'est le néoplatonisme. C'est l'erreur fondamentale du néoplatonisme. Alors c'est curieux de voir que Kant est dans la lignée des néoplatoniciens. Et tous les Kantiens sont des néoplatoniciens. Parce qu'ils font de la modalité fondamentale de la connaissance l'objet de la connaissance. Ce qu'on regarde et ce qu'on connaît en premier lieu. Ce qu'on regarde et connaît en premier lieu, est-ce que c'est l'être ou ma manière de connaître l'être? Posez la question de cette manière-là. Est-ce que ce que je connais en premier lieu, est-ce que c'est ce qui est? Ou est-ce que c'est ma manière de le connaître? Vous comprenez, ma manière de le connaître présuppose une réflexion sur ma connaissance. Donc c'est second. Et c'est mon premier. C'est vrai, ce sont deux jumeaux. Et c'est le Benjamin qui prend le droit d'aînesse. C'est très curieux, ça. Et ça fait comprendre tout le néoplatonisme. Alors, il faudrait se demander si la réaction violente d'un Hegel face à Kant, la réaction violente d'un Nietzsche à l'égard de Kant, est-ce que c'est encore du néoplatonisme? Les deux contraires sont dans le même genre. Là, je crois que c'est encore du néoplatonisme, ces deux manières de considérer le conditionnement antérieur à ce qui spécifie la connaissance, son objet. Il y a deux manières de le regarder. Il y a deux conditionnements différents. Il y a le conditionnement du côté de la subjectivité transcendantale. Et il y a le conditionnement du côté du contenu de l'objet. Donc du côté objectif, du côté métaphysique. Mais on retrouve deux néoplatonismes. Et l'Aristote l'infantilisme seul permet de comprendre cette rencontre si forte dans le « je suis », du « je suis » et du « ceci est ». La fois prochaine, nous allons essayer de faire l'inventaire de toute la richesse du « je suis » tant du côté objectif.